Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance.
Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui s'intéresse beaucoup aux entreprises sociales et solidaires. Bonjour Daniel.
Bonjour Philibert, c'est vrai et je suis notre invité depuis un moment, je suis très admiratif de leur démarche.
Et donc justement notre invité aujourd'hui a créé en 2016 une entreprise sociale et solidaire dont la mission très noble est de changer le regard des Français sur les réfugiés grâce à la bouffe. Il s'agit d'un service traiteur qui prépare des plateaux repas pour les entreprises et qui a la particularité d'embaucher en cuisine exclusivement des réfugiés. C'est un projet donc qui a marqué notre attention car au-delà de l'aspect social évident, c'est aussi l'occasion de faire émerger de nouvelles cuisines du monde. Nous sommes aujourd'hui avec Louis Jacquot, le fondateur des Cuistots Migrateurs. Bonjour Louis.
Bonjour.
Dans cette édition spéciale, on a l'habitude de parler de la crise et de son impact sur l'activité de nos invités. Dans ton cas, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur ton concept et que nous en dises un peu plus sur les Cuistots Migrateurs.
Avec plaisir, merci de me recevoir sur Business of Bouffe. Les Cuistots Migrateurs, c'est quoi? Les Cuistots Migrateurs, c'est une entreprise sociale, donc avec une vocation sociale, une vocation économique. Et nous, notre idée, c'est d'employer des personnes réfugiées en CDI, donc on n'est pas une plateforme avec des auto-entrepreneurs ou un Uber du réfugié. Nous, on veut permettre à des personnes réfugiées de reconstruire leur vie en France avec une situation stable. Donc on les emploie en CDI et on leur propose, c'est tout le but du projet, de valoriser ce qu'elles apportent, de valoriser leurs recettes, de valoriser leur culture. Et donc on fait les recettes de nos chefs, les recettes de Syrie, d'Iran, de Tchétchénie, du Népal, Éthiopie, Afghanistan, Bangladesh, Sénégal, etc. Avec l'idée que grâce à ça, modestement mais quand même, on apporte un regard un peu nouveau sur la question des réfugiés, puisque vous le savez autant que moi, souvent dans les médias, c'est quand même très pessimiste, c'est très noir, on voit les réfugiés comme des victimes ou comme une menace. Et là, on prend un peu le contre-pied de tout ça en essayant de montrer que c'est des gens qui arrivent avec toute une histoire, et c'est cette histoire qu'on a envie de valoriser, en commençant par leurs recettes de cuisine.
Et justement, Louis, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de leur profil, en fait? Ils viennent de quel pays? Est-ce qu'ils étaient cuisinés dans leur pays? Ou quelle est la relation avec la bouffe aussi?
C'est des profils très différents. Quand on s'est lancé avec mon associé Sébastien, on s'est dit on va trouver plein de chefs de ces pays-là. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait plein de gens qui étaient juste passionnés de cuisine et qui avaient à cœur de partager leurs recettes et de la faire découvrir. Et donc on a des gens qui étaient cuisiniers professionnels comme Rachid qui aujourd'hui est notre responsable de cuisine et qui encadre une dizaine de chefs qui travaillent dans un traiteur en Iran, mais on a Bishnu qui est un ancien militaire des forces spéciales à Singapour et qui vient du Népal. On a Sarah qui est éthiopienne qui a été c'est une histoire très dure, mais qui a été exploitée comme esclave par des familles au Koweït. On a vraiment des parcours très différents et c'est important, je crois, de le rappeler et de le montrer parce que on ne sait pas toujours ce que recouvre cette réalité de réfugiés. Et nous, notre mission, c'est de montrer qu'il y a des gens qui ont été opposants politiques, il y a des gens qui étaient homosexuels, des gens qui sont partis parce qu'ils font partie d'une minorité ethnique ou religieuse. Mais dans tous les cas, c'est des gens qui sont ultra motivés pour partager leur cuisine et ultra motivés pour s'intégrer, pour apprendre le français et reconstruire leur vie en France. Et ça, c'est aussi important de le dire parce que trop souvent, on pense qu'ils sont là pour prendre des acquis sociaux, mais c'est pas du tout le cas. Et ils ont une énergie de dingue.
Ils veulent bosser, ils veulent s'intégrer. Et du coup, s'ils sont pas cuisiniers, comme tu le disais, j'imagine qu'ils sont quand même intéressés par la bouffe. Ça veut dire que vous les formez, ils ont une formation ou ils apprennent sur le tas avec les autres cuisiniers de l'équipe?
Nous, notre critère de recrutement numéro un, en plus d'un niveau minimum de français ou d'anglais qui est essentiel parce qu'on fait quand même de la cuisine pour parfois plusieurs centaines de personnes, donc c'est vraiment un boulot d'équipe et faut qu'on se comprenne. Le critère numéro un, ça va être la passion pour la cuisine. Et ensuite, avec Rachid, donc dont j'ai parlé, et avec Candy Fernandez, qui est un chef américain, on les accompagne au quotidien. C'est un peu de l'apprentissage sur le tas, On n'a pas encore une école de cuisine, mais on arrive à accompagner des gens qui n'étaient pas du tout cuisiniers. Le premier chef qu'on a recruté, il s'appelle Faek Almana, il vient de Syrie, il a fui la guerre en 2015, donc il est arrivé en octobre 2015. On l'a embauché, il parlait pas français et il avait une expérience de chauffeur-livreur. Et aujourd'hui, Faek, bah, il parle français, c'est un super ami avec qui on rigole beaucoup, et il est chef de partie. Donc il encadre deux cuisiniers au quotidien et il maîtrise un répertoire de recettes très 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 large, aussi bien ses recettes de Syrie et faire du houmous pour des centaines de personnes, ça lui fait pas peur du tout, comme des recettes du Népal, d'Afghanistan, etc.
Et justement, tu parlais de recettes, comment vous choisissez vos recettes? Quel est aussi le rôle des réfugiés dans l'élaboration des recettes? Je suppose qu'ils ramènent beaucoup de leur expérience, de leur culture. Pour ceux qui peut-être qui n'avaient pas d'expérience dans la bouffe ou qui ne cuisinaient pas auparavant, est-ce qu'ils viennent quand même ramener un peu de leur vécu, de la recette de leur maman, j'en sais rien, de leur grand-mère? Comment vous travaillez avec eux pour créer des recettes qui soient à la fois respectueuses de leur origine, mais aussi en ligne avec ce qu'attendent les consommateurs français?
Les recettes viennent de nos chefs. En tout cas, c'est le pari qu'on a fait depuis le début, c'est de dire à nos cuisiniers, bah, qu'est-ce que tu cuisinais chez toi? Qu'est-ce que tu cuisines encore ici avec les ingrédients que tu trouves? Et on va voir si on peut le faire. On s'est dit, si on emploie des personnes réfugiées, c'est pas pour qu'elles fassent une salade de carottes, c'est bien pour qu'elles fassent leurs propres recettes. Et ça nous paraissait doublement important parce que ça permettait à ces gens-là de se sentir utiles, dignes et de se montrer qu'elles avaient quelque chose à apporter, ça leur permettait de se raccrocher un peu à leur identité, à leur pays. Et ça permettait aussi d'apporter une cuisine du monde un peu nouvelle, avec plus de diversité, avec vraiment une dimension d'authenticité, puisqu'encore une fois, c'est leur recette avec les bons ingrédients, et pas une cuisine galvaudée et adaptée au goût des Français. Ça, c'est super important. Et Andy, donc, qui est un ancien donc, chef américain qui bossait au Spring et à la Bourse et la Vie notamment, lui est passionné de cuisine du monde, donc fait aussi un sacré travail de recherche pour essayer de trouver d'autres recettes, savoir s'ils les connaissent, savoir s'ils ont déjà goûté, et travaillent ensemble pour faire découvrir des cuisines. Des plats du Bangladesh, de Syrie, etc., etc.
Et ça, c'est vrai que c'est vraiment votre force aussi, au-delà évidemment de l'aspect social qui est vraiment à saluer, et j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que l'autre force, c'est ça, c'est qu'on découvre des cuisines qui sont moins représentées à Paris, qui ont la cuisine du Népal, de Syrie, d'Iran, du Sénégal, donc là, franchement, bravo. Si on parle maintenant du sujet qui nous préoccupe particulièrement dans cette édition spéciale, si on parle de la crise, est-ce que tu peux nous dire comment elle a impacté votre activité, justement?
Bien sûr. Donc nous, on a une double activité. Pour aller très vite, on a une grosse activité qui est de faire du traiteur et des réceptions pour les entreprises surtout. Donc on travaille des réceptions de 20 à 2000 personnes. Et à côté, on a un restaurant dans le 11e. Et on a été vraiment doublement impacté par la crise parce que du jour au lendemain, en fait, toutes les entreprises ont annulé leurs commandes. Mmh. Et ça a été d'autant plus douloureux que le mois de juin et un peu juillet, c'est la plus forte période pour l'activité traiteur. Mois de juin et un peu sur juillet.
Ouais. D'accord.
Vraiment. Le marché du traiteur, c'est quand même assez saisonnier. Vous vous en doutez, à l'approche des fêtes, Noël, Nouvel An, il y a beaucoup d'activités. Et il y a également beaucoup, beaucoup d'activités à l'approche de l'été, parce qu'il y a plein de pots, de boîtes, et puis on se retrouve, on fait, rosé petit four, quoi, avant l'été. Donc c'est une grosse période. Donc c'est d'autant plus difficile de savoir que cette période, on va la rater, puisqu'on n'a absolument aucune commande. Et les perspectives pour la fin d'année sont pas très réjouissantes non plus, parce que on sait tous, on entre quand même dans une récession, et donc les budgets marketing vont être un peu coupés. Ouais. Le resto, on connaît tous aussi l'histoire, hein, on a été aussi là contraint d'arrêter. Donc c'est difficile pour nous, c'est un moment où il faut qu'on arrive à rebondir et à se réinventer, c'est tout l'enjeu là.
Donc vous, au début des prochains mois. Début de crise, toute l'activité est complètement à l'arrêt, parce que la restauration est à la fois l'activité traiteur B2B, il ne se passe plus rien.
Oui, parce que le restaurant, c'est avant tout un point de vente. Enfin, disons que tout était cuisiné sur place dans notre... tout était cuisiné, pardon, dans notre cuisine centrale à Montreuil. Et donc, c'était difficile de faire cuisiner sur place et de faire de la vente à emporter. Pour nous, ça voulait dire remettre toute la machine en route, remettre la cuisine, remettre en route les livreurs. Et donc, on a été contraint vraiment de vraiment tout arrêter pendant 2 mois. Il faut dire que le chômage partiel était le bienvenu. Enfin, ça, c'est sûr que pour les entreprises comme nous, c'est très très important. Voilà, donc c'est le moment de rebondir. On a transformé depuis une semaine le restaurant dans le 11e en boutique traiteur, donc pour développer le segment emporté. On va essayer de le faire en ligne aussi, en s'appuyant à la fois sur les Deliveroo, les solutions comme ça, mais aussi de voir si on peut le faire en interne, parce qu'on a on a envie de développer aussi toute une gamme d'épiceries, notamment avec les épices Shira, qui sont une super gamme d'épices sauvages et bio avec lesquelles on travaille. Donc il y aura toute cette dimension là, et puis voir si on peut au niveau des entreprises du B2B, même si il y a encore beaucoup de télétravail, arriver à développer une gamme de lunchbox, quoi, de panier repas. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on bosse maintenant.
Tu parlais, Louis, de chômage collectif, chômage partiel, et ça vous a probablement et sûrement aidé. Tu as combien de salariés aujourd'hui ?
Alors, l'entreprise, on est une trentaine aujourd'hui. Tout le monde est en CDI et on a 13 réfugiés. La grande majorité sont en cuisine. On a également une personne qui est à la plonge et on a 2 personnes au restaurant, au service.
Je suppose que tu es proche de la communauté des réfugiés par tes équipes, par les amitiés que tu as pu développer au fur et à mesure. Comment eux, ils vivent cette crise-là ? Est-ce que tu sais plus de comment cette communauté, elle passe pendant cette période-là ?
Je suis proche de mon équipe. J'ai malheureusement pas tout le temps que je voudrais avoir pour avoir un engagement au-delà, à côté. Je sais que en temps de non-crise, c'est déjà très très difficile pour les personnes réfugiées. Et je l'ai pas dit, mais je voulais le rappeler quand même. Quand je parle moi de réfugiés, c'est de réfugiés statutaires. Donc c'est des gens qui ont fait une demande d'asile et qui ont un permis de séjour et de travail de 10 ans. Donc je peux les employer.
Ouais, ils ont leurs papiers.
Ils ont leurs papiers. Ils ont eu un minimum d'accompagnement, ils sont au RSA, mais c'est déjà difficile en temps normal pour eux de s'intégrer, parce que c'est difficile de faire, leur niveau de langue est souvent insuffisant, ils n'arrivent pas à faire valoir leur diplôme, ils savent pas à qui s'adresser, et leur seul contact avec des Français, c'est souvent la préfecture, et puis l'assistance sociale, quand ils en ont un. Donc je pense que c'est d'autant plus difficile pour eux actuellement de vivre cette crise. Oui, je pense que heureusement il y a des assos qui font un super travail sur le terrain, mais je pense que c'est malheureusement un passage bien difficile.
Si on parle du retail, donc tu nous as dit que vous avez un pop-up, donc un restaurant, donc ça reste un lieu éphémère, c'est ça ? Vous l'avez ouvert en fin 2019, ça veut dire que vous allez, c'est un test, ça va durer combien de temps ? Est-ce que tu penses déjà aujourd'hui, est-ce que tu en sais suffisamment pour savoir si vous allez continuer cette activité physique retail ?
Alors pour l'instant, on est parti pour un an, effectivement, donc depuis octobre, donc on est encore là-bas dans quelques mois, je n'ai pas de visibilité au-delà. Nous, c'est quelque chose qu'on aimerait maintenir, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, déjà parce que ça nous fait plaisir d'essayer de nouvelles choses et pas être uniquement, ne pas nous adresser seulement aux entreprises, mais c'est également important parce que dans le projet, il y a quand même toute la dimension de raconter une histoire, de nous raconter, de faire encore une fois participer à notre échelle quand même à un changement de regard, et on pense que c'est sans doute plus efficace si on arrive à toucher le grand public, si on arrive à s'incarner dans un lieu. Et donc on se dit qu'il y a sans doute quelque chose à faire de ce côté-là, et puis également parce que c'est une manière de multiplier l'emploi, quoi, hein, que ce soit pas seulement dans notre cuisine à Montreuil, mais si on peut le faire dans plusieurs points, ça sera super pour notre projet social, notre impact social. Donc j'espère que ça va se prolonger boulevard Voltaire, et j'espère que si c'est pas le cas, on arrivera très vite à trouver un nouveau lieu, parce que c'est essentiel pour notre projet et pour le message qu'on veut porter.
d'avoir une existence physique et du coup, en effet, plus d'impact si demain il y a plusieurs lieux comme ça répartis partout dans Paris, voire ailleurs aussi, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on a ces situations-là et des gens qui peuvent être intéressés pour découvrir la cuisine de pays un peu plus lointains comme ça. Où...
Ah bah là, on a énormément de demandes et depuis le début des cuistots, on a des gens de l'étranger qui nous contactent, des gens du sud de la France, soit pour commander, soit pour monter un projet similaire. Ça fait rêver, c'est sûr, mais on n'a pas encore réussi à le faire. Ça reste dans un coin de notre tête, évidemment, mais on a beaucoup à faire ici et on essaie de prioriser.
Et lui, ça me donne des idées parce qu'en fait, nous, on a déjà évoqué dans ces podcasts hein, l'idée. Il y a un produit qu'on aime beaucoup, Philibert et moi, ce sont les conserves, en fait, parce que voilà, on a la possibilité de figer ces produits dans les temps et les conserver plus longtemps. Tu parlais peut-être de proposer tes épices qui sont d'une très bonne qualité, peut-être un mode épicerie. Est-ce que demain, on ne pourrait pas imaginer une ligne custom migrateur des conserves, des recettes typiques d'où viennent les réfugiés et proposer ça peut-être en épicerie fine? Ou même sur Internet, à des gens qui veulent goûter ces recettes et qui ne sont peut-être pas à Paris?
C'est une excellente question. On se l'est posé au tout début de notre aventure, on se l'est reposé là, puisque on se pose beaucoup de questions forcément pour la suite. C'est pas une voie qu'on a forcément, vers laquelle on a envie de s'engager forcément, parce que on a vraiment envie d'avoir la meilleure qualité possible. Je pense qu'on est très attaché à une cuisine fraîche, faite maison, un petit peu artisanale, si on peut le dire comme ça. Et j'aimerais mieux qu'on arrive à s'incarner dans des lieux et à toucher beaucoup de monde comme ça que le faire à travers une ligne de produits. Je connais pas assez ce monde-là, mais j'ai l'impression que c'est difficile de le faire sans conservateur, sans un certain nombre de contraintes.
Ah, justement, le contraire.
Justement,
en fait.
Justement, là, c'est tout l'intérêt de la conserve. Bon, faudra qu'on fasse un épisode dessus, Daniel.
Ouais.
Tout l'intérêt de la pertisation, monsieur Appert, c'est que justement, contrairement à ce que pensent les gens, on n'a pas besoin d'utiliser des conservateurs, si on le fait bien. Ouais. Et je pense qu'il y a des choses à faire qui, en plus, sont cohérentes avec les valeurs, et permettent de garantir un maximum de naturalité et de garder du goût. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être qu'on pourra t'aider à développer ça.
On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de se lancer sur des plateformes peut-être type La Ruche qui dit oui ou Quel bon goût, tester un petit peu ça avec des plats cuisinés sous vide pour tester déjà un petit peu, voir si on arrive à faire un produit joli et voir s'il y a une demande de ce côté-là. On va essayer avec un mafé, avec un murgi malai qui est un plat du Bangladesh avec poulet, lait de coco, amandes, raisins. Qui est super. Et un tarkari de légumes, un curry, si vous voulez, de légumes népalais. Donc, on devrait retrouver ça assez vite en ligne dans les prochaines semaines. J'espère que ça trouvera son public. Et puis, si ça marche, peut-être que là, la question, effectivement, des bocaux pourrait se poser, effectivement.
Mais j'insiste à lui parce que c'est même un sujet sur lequel on travaille avec un de nos clients actuellement et j'invite nos auditeurs aussi de faire l'exercice de se balader dans des rayons conserves au supermarché et de faire des yucca pour voir un peu les résultats qui en ressort et tu vas voir que ce sont des produits sans conservateur qui ont une image un peu vieillotte mais qui finalement sont très chouettes et je pense que pour ce que tu proposes surtout dans une période Covid où tu vas devoir un peu réinventer ton business, ça peut être une solution assez intéressante mais j'arrête de parler de ça, on peut peut-être continuer à parler par la suite.
Je voulais poser une question
sur les livraisons.
On fera un épisode spécial sur les conserves. Oui, si je voudrais qu'on parle. On parle de la livraison, parce que tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes lancé dans la livraison, alors indirectement avec des plateformes type Deliveroo. Donc déjà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu réfléchis tu l'as dit tout à l'heure, à passer en direct, en dernier? Mais ça nous intéresserait d'avoir ton feedback justement de l'utilisation de la plateforme Deliveroo en tant que marque. Ouais, vas-y.
Oui, alors difficile de vous donner une réponse très très complète parce qu'on l'a lancé en fait la semaine qui a précédé le confinement, donc j'ai très peu d'historique, mais quand même deux trois trucs à dire. Bon, nous on s'est posé déjà beaucoup de questions parce que c'est quand même des solutions qui sont très critiquées et donc on s'est posé la question de la cohérence avec notre projet social.
Je me suis fait la remarque en préparant.
Je pense que ça peut interpeller, ça a interpellé quelques personnes chez nous, ça a interpellé quelques-uns de nos clients aussi. Et on a vu le contexte, on a quand même décidé de le maintenir parce que nous, ce qui nous importe avant tout, quand même, c'est de créer de l'emploi à travers le resto, à travers le traiteur, et de maintenir ces emplois dans un contexte qui, on le sait, est difficile.
Là, c'est de maintenir des débouchés, ouais. Il faut maintenir
des débouchés. Maintenir des débouchés et même d'en trouver d'autres. Donc on est sur Deliveroo, on sera sans doute sur leur concurrent Uber Eats aussi, parce qu'on a besoin d'avoir davantage de visibilité. Après, nous, on a du mal à s'insérer sur ces plateformes au-delà de la question du projet social, parce que on n'est pas identifiable autour d'un produit. On n'est pas la pizza, on n'est pas le burger, on n'est pas le Pokéball, et c'est difficile pour nous de remonter très bien sur ces types de plateformes où les gens viennent quand même chercher. J'ai l'impression. Parce qu'ils ont vraiment ou alors quelque chose qu'ils ont vraiment en tête.
Il y a peu de gens qui vont chercher un plat syrien ou un plat iranien
Un Libanais peut-être. Donc je pense que sur un créneau très apéro, et là-dessus nous on a quand même une sacrée carte à jouer, parce qu'on sort un peu on a du houmous, mais on sort un petit peu de ça. On a des caviars qui sont iraniens, on a des caviars du Bangladesh, on a quand même pas mal de petites choses pour l'apéro qui sont top. Et là-dessus, je pense qu'on a une carte à jouer. Mais on n'a pas un produit iconique Deliveroo, type burger. Et donc, c'est un challenge pour nous de remonter. Okay. Donc, on va essayer de voir comment on articule un peu notre communication, la présentation, pour arriver à mieux s'insérer sur ce type de plateforme. Et après, je l'avais évoqué, on a envie de développer une boutique en ligne, donc à la fois pour du click and collect et pour de la livraison, via une solution type Stuart, je pense. Justement pour essayer d'avoir plus de flexibilité dans ce qu'on raconte, comment on se présente, de pouvoir mettre plus de produits différents. Donc on va essayer de mettre ça en place au cours juin.
Et Deliveroo, ça me fait penser à un truc qui serait super intéressant, c'est d'aller les titiller un peu, dans la mesure où vous êtes une entreprise à mission, où vous avez un rôle social très fort. Ce serait bien d'aller les titiller là-dedans et de leur demander de vous aider dans cette mission en vous mettant en avant, parce que c'est clair, le modèle de Deliveroo, pour émerger, il faut qu'ils vous mettent en avant, si vous êtes sur la home et tout, mais ça vaudrait le coup d'essayer de les sensibiliser, de leur demander des choses comme ça.
Oui, tout à fait. On va réattaquer. On n'a pas encore réussi, mais c'est vrai.
Et Louis, si on parle de l'après-crise, c'est quand même quelque chose qui est un peu loin, parce qu'on on a aucune visibilité de ce qui sera. Quand est-ce qu'on va arriver à cette étape-là de l'après? Et surtout, on n'a pas des boules de cristal. Hein, c'est ce que souvent nous disent nos invités, mais quand même, c'est inévitable. On essaye d'imaginer comment les choses peuvent évoluer par la suite. Est-ce que toi, tu t'es posé ces questions-là? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as tiré des leçons déjà de ces deux premiers mois des crises sanitaires?
Oui, tout à fait. On a plusieurs idées, des choses qu'on avait déjà en tête avant la crise, des choses qui sont confirmées ou d'autres choses qui ont émergé avec cette crise. On s'est rendu compte que ça marchait très bien avec les entreprises, mais ça marche bien quand les entreprises vont bien, et donc que le modèle de l'événementiel qui nous porte actuellement est pas assez résilient, ne peut pas suffire à lui-même, et donc on se dit qu'on doit être plus quelque chose ancré dans le quotidien des gens. Donc ça peut passer par de la vente comme on le fait au pop-up, peut-être par des concerts comme vous l'avez suggéré. Enfin, la réflexion est encore relativement ouverte, mais on aimerait être quelque chose qui est plus du quotidien et moins uniquement quelque chose qui se rattache à des moments précis, un peu plus festifs, réception. Ça, c'est une donc rééquilibrer un petit peu l'entreprise autour d'une jambe de B2B et de B2C, ce qu'on avait déjà commencé à faire avant la crise avec le pop-up Boulevard Voltaire. Et on a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et ça, on n'a pas attendu la crise, c'est de multiplier notre impact social, parce que même si on arrive à embaucher des personnes en CDI, on voudrait en embaucher beaucoup plus, et c'est difficile de faire beaucoup plus. Et donc, on a envie, on travaille sur un projet d'école de cuisine, une association, donc appelons-la l'école des cuistots si vous voulez, qui sera une formation qualifiante, diplômante, gratuite à destination des personnes réfugiées, puisque trop souvent en fait on se rend compte que leur niveau de français et avec une dimension de cours de français, parce que trop souvent on se rend compte que c'est ce qui va bloquer pour l'insertion sur le marché du travail, même dans le domaine de la restauration. Et trop souvent quand c'est les personnes réfugiées trouvent un emploi dans la restauration, ça va être à la plonge ou un commis de base, si on peut dire ça comme ça. Et nous, on a envie de former des gens qui adorent la cuisine, qui ont envie d'en faire leur métier, qui ont envie de grimper. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ce projet actuellement.
C'est un super projet. Et nous, ça nous fait forcément très plaisir de voir que la bouffe, la cuisine peuvent être un vecteur de réinsertion et de d'accomplissement pour des réfugiés.
Vas-y. Non, c'est vraiment ça. C'est à la fois il y a une demande énorme dans notre pays quand même pour des gens dans la restauration, dans l'hôtellerie, donc il y a un besoin. Il y a en face des gens qui sont ultra motivés, qui ont envie de travailler, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de parler le français. Donc tout l'intérêt de l'école de Cuisto, c'est de faire se rencontrer ces deux mondes-là. Et si on peut en même temps, en plus, rajouter une brique, qui est la brique je valorise mes recettes, je fais découvrir les recettes de mon pays, et ben je pense que là tout le monde est gagnant.
Franchement, c'est super, bravo. Louis, on arrive à la fin du podcast, on a une question rituelle qui est plus personnelle, on aime demander à nos invités comment ils vivent le déconfinement, est-ce qu'ils sont encore confinés chez eux, est-ce qu'ils ont repris une vie complètement normale, est-ce qu'ils ont des bons plans déconfinement partagés avec nos auditeurs, des choses qu'ils ont découvert ces dernières semaines avec la crise.
Alors oui, je suis légèrement déconfiné. J'ai remis les pieds dans notre bureau, dans notre cuisine. J'ai revu les équipes. Ça fait du bien parce que, on est une quinzaine de nationalités. On été avant la crise, une quinzaine de nationalités à se retrouver tous les midis. Et ça, c'est quelque chose qui est super chouette dans le projet, qui est super riche. Mmh. Et ça me manque un petit peu. Et donc, je suis allé faire un petit tour en cuisine. Ça fait du bien. Est-ce que j'ai fait des découvertes particulières? Enfin, moi, je fais pas beaucoup de Deliveroo ou de choses comme ça. Les restos étaient fermés. J'ai beaucoup aimé je suivais déjà la page Instagram de Taku Sekine du restaurant Dersu, qui je trouve a proposé des recettes, moi qui me parle vraiment, donc déjà les photos sont superbes, et puis c'est de la cuisine du monde, c'est accessible, c'est bien expliqué, c'est très simple, c'est ultra efficace, donc j'ai passé pas mal de temps sur sa page Insta, que je recommande particulièrement, et en période de confinement comme en période de déconfinement.
Et tu n'es pas les premiers à faire référence.
Ah oui, d'accord.
Il fait un gros carton, je pense.
C'est un super taf.
À ce moment-là, mais c'est chouette ce qu'il fait.
C'est vraiment pour tout le monde en plus.
C'est clair. Et écoute, Louis, c'était un énorme plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui chez Business of Bouffe. Ça a été sympa d'apprendre un peu plus sur les cuistots migrateurs. On va peut-être en parler après parce qu'on croit beaucoup à l'idée des conserves. Je pense que dans ton cas particulier, ça colle comme parfaitement. Mais dans tous les cas, merci. C'était un plaisir et à très bientôt, j'espère.
Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation.
Salut, Louis. Ciao.
Ciao.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.